Et on joint Monique, qui est dans les cantons de l'Est. Est-ce qu'on dit canton de l'Est ou Estrie? Je suis toujours un petit peu mêlée, Monique.
Ah ben finalement, Hélène, on peut utiliser les deux.
Ah bon.
On n'a pas tranché.
OK. Alors, si je dis Estrie, je ne suis pas dans l'erreur. Et si je dis dans les cantons de l'Est non plus, mais je trouve que les cantons de l'Est, c'est plus joli, plus poétique.
Oui, c'est plus chaleureux, hein?
Oui.
C'est
Alors,
moins administratif,
oui,
peut-être.
je suis bien d'accord. Alors, vous parlez donc d'un partage équitable de l'espace public avec les personnes en situation d'itinérance. Est-ce que ça se peut, ça, Monique?
Ben, écoutez, on peut se poser certaines questions. Par exemple, quelles sont les trajectoires qu'empruntent au quotidien les personnes en situation d'itinérance à Montréal? Comment la collectivité, par l'entremise des pratiques d'aménagement de l'espace urbain, participe à leur inclusion ou à leur exclusion dans l'espace public? À partir de ces grandes questions-là, ben, il y a des étudiants de l'Université de Montréal et collaboratrices de recherche chez Architecture sans frontières Québec, ASFQ, donc Sarah Wagner-Lapierre, Elisabeth Prince et Véronique Lapalme tentent de répondre cet été à ces questions sous la houlette de la professeure Caroline Grimard de l'École de travail social de l'Université de Montréal, en collaboration avec Sonia Blanc, qui est architecte diplômée aussi de l'UdeM et qui est chargée de recherche en matière de solidarité urbaine au sein d'ASFQ. Alors voilà une belle équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus spécifiquement, l'équipe de recherche s'intéresse aux personnes qui s'installent dans l'espace public extérieur et qui en font un chez-soi, que ce soit dans les rues, dans les parcs ou dans les campements urbains. L'équipe cherche à connaître leur histoire personnelle, à évaluer leurs besoins et à identifier les pratiques d'aménagement qui s'avèrent les plus inclusives. Donc, ce n'est pas que des numéros. Alliant donc travail social et architecture, ce qui est assez original, ce projet que l'on dit transdisciplinaire va permettre de cerner les gestes et installations à privilégier en matière d'urbanisme et d'aménagement dans un contexte de réflexion collaborative, notamment avec la Ville de Montréal. J'ajouterai, Hélène, pourvu qu'elle écoute.
Oui.
L'un des avantages de ce projet, c'est la mixité et la complémentarité disciplinaire. En pairant donc des étudiantes formées en travail social avec d'autres ayant étudié en architecture, on a d'un côté des gens qui vont aller à la rencontre des personnes en situation d'itinérance pour entendre et traduire leurs besoins aux autres membres de l'équipe, et d'autres qui veilleront à trouver des idées d'aménagement urbain qui ne seront pas hostile à l'itinérance. Il faut dire que ce projet est la suite d'une première recherche élaborée par la professeure Caroline Grimard de Travail social en collaboration avec ASFQ. Ce premier projet, bien, il a permis de documenter différentes pratiques en matière d'architecture, de design et d'urbanisme destinées aux personnes en situation d'itinérance, pas seulement à Montréal, mais en Europe occidentale, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Leur travail, ben, qu'est-ce que ça a permis? Ben, ça a permis d'identifier des aménagements hostiles aux personnes en situation d'itinérance, mais plusieurs autres aussi qui le sont moins ou pas du tout. Alors, l'équipe de recherche a regroupé le tout en cinq grandes catégories de pratiques d'aménagement qui peuvent soutenir le bien-être des personnes en situation d'itinérance. Voilà quelque chose de positif. Le fruit de leurs travaux a été recensé dans un catalogue intitulé Architecture plus itinérance, pratique inclusive pour une ville solidaire, qui a été rendu public en janvier, qui est destiné aux décideurs afin de les sensibiliser et de prévoir une mixité d'utilisation dans l'élaboration des projets d'aménagement à Montréal. Et ce catalogue, Hélène, ben, il est public. Si vous saisissez Architecture plus itinérance, pratique inclusive pour une ville solidaire, vous allez avoir accès au document lui-même. Voici donc un inventaire de bons et de moins bons aménagements et réaménagements, et ce, le long de la rue Sainte-Catherine, en partant du Square Phillips à l'ouest jusqu'à la place Émilie-Gamelin Gamelin à l'Est. Et ça, c'est, je le répète, le travail qui a été, qui fait partie de cette première partie du projet réalisé par Caroline Grimard. Alors, réaménagé il y a seulement quelques années, le Square Phillips demeure un îlot de chaleur parce que les arbres qu'on y a plantés, ben, ils ne sont pas encore matures. Mais on constate que le mobilier urbain n'est plus aussi hostile aux personnes itinérantes qu'auparavant. Alors, nous donne un exemple, les nouveaux bancs ne sont plus munis d'un accoudoir central. Qu'est-ce que ça faisait, ces accoudoirs? Ben, ça empêchait les gens de s'allonger.
Mm-hmm. De dormir.
Ben, peut-être de dormir, de se reposer, de prendre une pause.
De s'allonger.
Ouais. Oui, de s'allonger, carrément. Alors, de même, les couvercles de poubelle, ben, ça empêchait les personnes de ramasser les bouteilles et les canettes consignées. Elles ont été modifiées pour faciliter l'opération. À ce stade de la promenade, on constate un embellissement de l'aménagement, notamment par l'embourgeoisement du quartier dit Red Light. L'espace public, c'est un lieu de cohabitation et la cohabitation crée forcément des tensions, explique Caroline Grimard. La gentrification a pour effet de déplacer les services communautaires qui composent le tissu social des personnes itinérantes. Quand l'architecture est utilisée pour créer un idéal harmonieux, ça profite plus à un groupe qu'à l'autre et ça invisibilise et exclut certaines personnes. Le pavillon multifonctionnel, le repère et l'esplanade tranquille dans le quartier des spectacles constituent un bel exemple d'aménagement à utilisation mixte. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Le pavillon et la terrasse offrent différents types d'espaces et d'activités accessibles à tous et à toutes, hiver comme été. Les tables permettent aux étudiantes et aux étudiants de travailler en équipe. Les beanbags offrent l'occasion, autant aux touristes qu'aux personnes itinérantes, de se reposer quelques instants. Et surtout, au besoin, les employés du pavillon peuvent recourir à une association de référence si des personnes itinérantes le requièrent. En face, on trouve la place Hydro-Québec, c'est aussi un bon coup architectural qui, avec son mobilier urbain dispersé dans des zones d'ombre qui incluent un point d'eau, ben, favorise aussi la mixité avec ces zones à la fois intimes et sécuritaires. On arrive à la rue Saint-Laurent. En continuant vers l'est, on remarque là que les lieux de partage se font plus rares. Néanmoins, l'organisme Le Sac à dos est à l'origine d'un projet de construction situé à l'angle de la rue Sainte-Élisabeth qui offrira différents services et des logements sociaux à une clientèle en situation d'itinérance. Il y a aussi la présence de Cactus Montréal qui joue un rôle important tant pour la santé des personnes itinérantes que pour celle des habitants du quartier. Une fois rendu à la place Émilie-Gamelin, on constate que les conflits d'aménagement sont là plus visibles. Le projet de construction d'une tour, la fermeture de différents commerces, ainsi que la pandémie ont rendu l'ensemble du quartier plus hostile aux personnes sans domicile. Travailler sur la cohabitation sociale ne signifie pas d'éliminer des conflits d'usage ni même des conflits tout court. Il s'agit d'apprendre aux groupes à vivre ensemble et à s'assurer que les conflits ne sont pas générés par un besoin non répondu, soumet Caroline Grimard. Si des personnes vont faire leurs besoins dans la cour de quelqu'un, ben c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de toilettes publiques. Donc, à l'issue de ce projet, du deuxième projet de recherche estival, il y aura une enquête post-occupationnelle. Ça veut dire ça, un outil d'évaluation de la performance des aménagements qui devrait être mené afin de répertorier les utilisations d'espaces intérieurs et de comprendre, et extérieurs, et de comprendre qu'en font les personnes en situation d'itinérante lorsque les travaux d'architecture et de design sont terminés. Donc, ce nouveau projet de recherche permettra de vérifier si leur réalité a été prise en compte et si les pratiques favorisant le bien-être qui sont ressorties de l'analyse de ce groupe de recherche se manifestent véritablement dans les projets d'aménagement au Québec. Caroline Grimard nous dit qu'elle veut aussi vérifier que les projets de design n'alimentent pas des traumas existants chez les usagers. C'est un axe de recherche dont on parle de plus en plus dans les pratiques de santé. Alors, on espère qu'il y aura de l'écoute de la part de tous les partis pour mettre en œuvre ces pratiques qui sont intrigatrices au lieu d'être excluantes.
Ouais, ils
Alors
ont...
voilà, Hélène, j'espère qu'on aura un œil peut-être plus bienveillant, à la fois sur les aménagements, mais aussi sur les personnes.
Oui, ne serait-ce qu'un œil bienveillant et aussi un sourire, ça ne coûte pas cher et ça rapporte gros, comme dirait l'autre.
Oui, et même un bonjour avec le sourire,
ah oui.
C'est incroyable la différence que ça fait.
C'est vrai, ils se sentent exister,
oui,
les personnes en situation d'itinérance.
Oui, ils ne sont plus invisibles.
Tout à fait. Merci Monique. Et rappelez-nous le catalogue, il s'appelle
oui.
Comment déjà?
Oui, je vous dis le titre un instant, je reviens à l'article, excusez-moi.
Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras, je sais que ça commençait
non,
par architecture.
Mettez pas dans l'embarras, il faut juste que je retrouve les... Ah oui, non, attendez. Oui, c'est architecture plus itinérance, deux points, pratique au pluriel inclusive, au pluriel bien sûr, pour une ville solidaire.
Parfait. Et cet article que vous avez lu est paru sur nouvelles au pluriel.umontréal.ca. Merci Monique.